Donc, dans ces exposés du soir, on essaie de vous donner des éléments qui peuvent nous aider dans cette quête d'une plus grande liberté. Mais il est vrai que lorsqu'on regarde trop dans une direction, il y a une sorte de déséquilibre qui se passe. Je me souviens d'Achancha qui donnait un exemple. Il disait, quand on guide quelqu'un, on dit va là-bas, la personne va un peu trop à gauche. On lui dit maintenant va à droite, elle va trop à droite. On dit va à gauche pour essayer de trouver un juste milieu. Ici, ce n'est même pas les personnes, c'est le système même, le système bouddhiste lui-même qui va des fois trop à gauche et qui doit aller un peu à droite et puis rééquilibrer. Donc le système lui-même. J'ai cité l'autre jour cette phrase de Vimalakirti, qu'on trouverait dans d'autres textes d'ailleurs, qui dit la compassion sans sagesse, c'est enfermement, c'est assujettissement, et puis la compassion sans sagesse, c'est aussi assujettissement. Donc il faut les deux pour que le chemin soit équilibré. Et le fait de dire ça, ça a un sens extrêmement profond et on va voir les dérives qui pourraient surgir si on n'était pas attentif à ces deux aspects. Moi, j'avais formulé d'une manière un peu plus, je ne sais pas, peut-être plus directe, en disant être sage sans être concerné et responsable, ce n'est pas être libre. Être concerné et responsable sans être sage, ce n'est pas être libre. Donc ces deux aspects d'être concerné et responsable qui sont aussi essentiels au fait d'être sage. Donc ce soir, j'aimerais parler justement qu'est-ce que ça veut dire être concerné et responsable et aussi pourquoi c'est important de le mentionner, de l'aborder. Donc on a dans le cheminement bouddhique une sorte de direction qui va dans ce qu'on appelle le sens de la vacuité, où on ne saisit pas les phénomènes. On a déjà un petit peu dans la notion du non-moi, mais qu'il n'y a rien à saisir, une sorte de dépouillement. Et alors si on est dans cette attitude de non-saisir, dans son expérience intérieure par exemple, où on ne saisit rien, il n'y a pas de moi, je, etc. Ben, il n'y a pas d'autre non plus, il n'y a pas de toi, etc. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on ne risque pas de s'isoler du monde et tout d'un coup tomber dans une sorte de quête de ses propres expériences intérieures de liberté et finalement où le monde, l'autre serait oublié et on ne trouve plus de place. Vous voyez, ce n'est pas juste parce qu'on oublierait d'y penser, mais il disparaît. Soi et l'autre disparaissent dans cette perspective. Donc, c'est quand même problématique. Donc, pourquoi se préoccuper des autres, dans le fond? On se rend compte que cette difficulté, elle est quand même propre à toute la tradition indienne. Si on regarde dans le shivaïsme du Cachemire, par exemple, la seule réalité qui est là, c'est Shiva. Shiva, c'est ce qui existe. Tout le reste, c'est que des illusions qui sont le jeu de Shiva lui-même. Donc tous les êtres, nous sommes juste le jeu de son imagination. Alors pour les shivaïstes du Cachemire, ils disent, mais voilà, quand un petit est fait un pot, c'est pas lui qui le fait, c'est Shiva. C'est super, mais ça devient très difficile d'être responsable de rien du tout. Évidemment, quand ils ont discuté avec les bouddhistes ont bien noté ceci en disant, mais alors, on n'est plus responsable de rien du tout, et comment avoir une attitude altruiste envers les autres si finalement c'est tout la responsabilité de Shiva? Mais non, ce n'est pas des choses simples ce qu'ils disent, parce que c'est basé sur des expériences intérieures profondes. Ce n'est pas juste de l'imagination de quelques rishis, c'est vraiment basé sur des expériences intérieures de pure présence et autres. La même chose pour l'Advaita Vedanta aussi, qui dit que voilà, tout n'est que le Brahman et nous sommes que d'un reflet de ce Brahman, etc. Donc à ce moment-là, ben, ça devient difficile. On n'a pas à s'occuper des autres puisque nous-mêmes, on n'est qu'une illusion, les autres sont qu'une illusion. Donc on a l'impression, dans la tradition indienne, il y a cette problématique qui est là, je crois, parce qu'on favorise une expérience intérieure extrêmement profonde, dans laquelle enfin, le monde se dissout un peu, parce qu'on voit la manière dont il est créé, pour ainsi dire, par la conscience. Mais après, on est quand même dans une situation un peu difficile. Je lisais l'autre jour des lettres entre Gandhi et puis Tolstoï, mais ce qui était intéressant, c'est que Gandhi, dans son mouvement de non-violence, il était inspiré par les textes de Tolstoï. Quelques lettres, un très joli échange, où Tolstoï finit une lettre, « Votre ami et votre frère ». C'est très joli quand il écrit à Gandhi. Mais dans cette lettre-là, eh bien, il lui explique quand même que le christianisme est supérieur dans le rapport à autrui. Il dit, bon, l'exemple de Jésus, etc. Et d'un certain côté, il n'a pas tort, parce que toute la richesse, dans le fond, de sa tradition chrétienne, c'est de mettre en avant le rapport à autrui. Donc c'est intéressant, dans ce qu'on retrouve ici, de mouvement qui prend soin des autres, à travers Gandhi, par exemple, de trouver qu'il y a quand même... une inspiration un peu à l'extérieur de la réflexion indienne. On a évidemment toute la réflexion du chemin des bodhisattvas dans la tradition bouddhique, extrêmement détaillée, extrêmement riche, mais il y a quand même cette difficulté, comment relier, si on déconstruit le monde à une telle profondeur, ben ce chemin des bodhisattvas, tout d'un coup, il faut arriver à le justifier. Donc comment est-ce qu'on va s'y retrouver dans cette quête pour essayer de ne pas oublier les autres dans le chemin spirituel? On peut demander ben pourquoi, dans le fond, moi je suis bien en méditation, voilà, des fois il y a non-moi, pas de problème, etc. Mais pourquoi est-ce que je vais me préoccuper des autres? Ben, c'est ce que Vimalakirti dit. D'être sage sans être concerné et responsable, ce n'est pas être libre. C'est parce que dans le fond, dans ce manque d'engagement, il y a aussi un manque de liberté. C'est que la liberté, elle va s'éprouver pleinement dans la mesure où justement, elle peut aussi être concernée et responsable. Donc cette question concerné responsable d'éthique ou de moralité, si vous voulez. On peut revenir à cette question, mais sur quoi ça s'appuie? Je me souviens, une fois qu'on rentrait de Beatenberg avec Stephen Batchelor, dans le train, il me dit ouais, « ça serait intéressant de s'occuper de la question d'éthique ». Je me suis dit ouais, « il n'y a pas plus ennuyeux que ce truc-là, quoi ». Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je me suis dit, mais je ne vois rien d'intéressant là-dedans. Mais je vais quand même commencer à essayer de voir de quoi il en retournait. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'était quelque chose d'immensément profond et d'assez questionnant, dans le fond, qui nous défie vraiment. Parce que bon, qu'est-ce qui la justifie? Ici, on a la phrase de Vimalakirti, mais d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il serait bien de se conduire de bonne manière envers les autres? Pourquoi? Où est-ce qu'on a une base? Parce que c'est mis dans les textes, il ne faut pas le faire, bon, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il justifierait? Alors, quelquefois, on justifie une loi morale qui est une loi naturelle, etc. Mais quand on commence à l'explorer un petit peu, on se rend compte que ça ne joue pas vraiment. Et le fruit de la générosité, c'est l'abondance. Ben, quand on voit tous les milliardaires, on ne peut pas dire qu'ils ont été nécessairement très généreux. Après, on dit oui, dans une vie future, mais enfin là, on commence un petit peu à éviter la chose, quoi. Alors, si on croit que comme fruit de la générosité, c'est l'abondance, on se rend compte que ça ne joue pas. Et aussi... il y a où les difficultés qui surgissent seraient dues au karma, comme on dit, ben, ça pose un peu des problèmes avec les difficultés que peuvent créer les traumatismes dans l'enfance. Alors, ça vient d'une vie antérieure, on l'a bien mérité, ça passe pas quand même, ça va pas. Donc on a ici quelque chose à l'envers, c'est parce qu'il y a de la souffrance dans l'enfance, ici on parle de traumatisme par exemple, qui a une vie difficile. C'est la souffrance qui va créer un conditionnement difficile et pas l'inverse. Donc dès qu'on questionne un petit peu cette question de karma, on se rend compte qu'elle, même si c'était une découverte, une avancée dans la tradition indienne au temps du Bouddha, elle reste quand même avec des notions extrêmement naïves. C'est là qu'on voit que la question d'éthique est quand même compliquée. Donc si on pense que, voilà, on est dans cette loi du karma avec une loi de rétribution et de châtiment, vaut mieux bien faire parce que là, on va avoir les bons points, vaut mieux éviter de mal faire parce que là, on va se faire taper sur les doigts. C'est évidemment une motivation assez limitée. On essaye de s'en tirer le mieux possible. Mais bon, on ne peut pas dire que c'est extrêmement élevé, extrêmement éthique. Nietzsche disait, une personne qui aurait besoin d'une bonne raison pour se comporter moralement, je n'aurais pas confiance. S'il faut une bonne raison, alors ce n'est pas vraiment de l'éthique, quoi. Si vous trouvez une raison pour bien se comporter. Vous voyez, c'est un problème quand même assez compliqué. Je vais vous citer une mystique musulmane du 8e siècle qui vivait en Irak, Rabia. Et elle est extraordinaire, cette femme. Elle est vraiment... Un jour, un grand soufi marchait dans la direction de la Mecque pour aller voir la Kaaba. Et puis, qu'est-ce qu'il voit en face de lui, il y a tous les gens qui couraient dans l'autre sens. Il dit, mais enfin, vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, oui, mais la Kaaba, elle est en train de se rendre à la rencontre de Rabia. Donc, c'était la Kaaba qui se déplaçait pour aller voir Rabia, et lui, il croyait qu'il allait à la Kaaba, là, à cette grande pierre. Donc, c'est un personnage assez extraordinaire, importante dans le soufisme. Mais alors, on dit qu'elle se promenait la journée avec une torche à la main et un seau d'eau. Quand tu as demandé, mais pourquoi tu fais ça? Elle a dit, bien, je veux brûler le paradis et puis éteindre l'enfer pour que les gens arrêtent de pratiquer pour aller au paradis et pour éviter l'enfer. Elle a dit, toutes ces histoires de rétribution, ça ne rime à rien. Ce n'est pas l'essence d'un chemin spirituel. Alors les stoïciens, ils avaient un autre point de vue. Ils disaient, bon, si on se comporte moralement, c'est vraiment là qu'on est le plus paisible. Donc personne ne nous embête, autant se comporter comme ceci. Bon, ça reste un petit peu limité, et aussi, ça ne pousse pas à l'engagement, ça pousse à un certain retrait, je ne vais pas faire de bêtises, je ne vais pas faire de mal, mais finalement, il n'y a pas d'engagement. Donc quand Vimalakirti nous dit que c'est pour la liberté, voilà, on va pouvoir se questionner qu'est-ce que ça veut dire liberté, maintenant on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'ouvre, c'est pas... une liberté parce que tout d'un coup on recevrait un bonus, mais c'est parce que cette pratique elle-même, elle est déjà dans le sens de la liberté. Et pourquoi est-ce qu'elle est dans le sens de la liberté? La pratique ici, comme je l'ai dit, d'être concerné ou être responsable, parce que ça s'appuie sur la non-saisie. Et la non-saisie, nous l'avons vu abondamment, c'est vraiment l'essence de la sagesse, donc... Le fait d'être concerné et d'être responsable s'appuie aussi sur la non-saisie. Donc nous abordons la même attitude, mais dans un contexte un peu différent. Ici, dans le contexte avec autrui, pas dans le contexte simplement dans sa propre méditation. Alors, concerné... Bon. On a vu ça avec les quatre Brahma-Vihara, enfin surtout les trois premiers, peut-être Metta, Karuna, Mudita, donc la bienveillance, la compassion et la joie sympathique. Donc on voit là, c'est une manière d'être en rapport avec autrui, avec bienveillance, avec compassion et avec joie sympathique. On pourrait parler ici de générosité au sens large. Prendre soin, être concerné. Donc la générosité, il y a tout d'abord les dons matériels, le sens où on le comprend en général le plus facilement. Mais il y a aussi le don, pardon, le don de la protection, qui est quelque chose de très important. Il y a le partage de son savoir. Savoir du dharma, par exemple, mais aussi de tout ce qu'on peut savoir et partager avec d'autres, une langue, les mathématiques, la grammaire, enfin, je ne sais pas. Ça aussi, c'est une générosité. Et dans cette générosité, eh bien ça demande la non-saisie qui s'oppose à l'attachement, d'être disponible, de ne pas protéger son temps, son confort, garder son savoir, qui est une manière de garder un certain pouvoir. Et là, ce que dans cette pratique-là, on voit bien où il y a l'enjeu, c'est de prendre conscience de l'attachement. L'attachement au confort, quelqu'un nous demande quelque chose ou vient nous raconter ses malheurs, on en a marre, quoi. On n'est pas disponible parce qu'on est dans l'inconfort. Donc ceci se pratique au quotidien. On a toutes les chances au quotidien de pouvoir pratiquer ceci. Et c'est clair. On n'a pas besoin d'être dans un état de calme extrêmement profond. Et ça va aussi autant dans le sens de la liberté que ce qu'on découvre sur son coussin. On peut voir ça, que dans la vie quotidienne, si on n'a pas cet attachement-là, il y a cette liberté, à ce moment-là, il y a des choix qu'on peut faire, qu'on ne fait pas s'il y a de l'attachement. Donc on a plein de situations concrètes. Alors en général, on fait attention à quelques-unes. Moi, j'aime bien faire attention aux mendiants dans la rue, mais c'est cool parce qu'ils ont une sorte de signe. Ok, voilà, là, il y a un problème de générosité, arrêtez-vous, donc ça va. Mais souvent, c'est un petit peu plus difficile, quoi. C'est plus caché, c'est pas aussi évident. Ben, par exemple, une place de parking, vous imaginez, ça, c'est. La générosité pour une place de parking, c'est autre chose, hein. Piécette que je donne aux mendiants, je pourrais dire que ça n'a pas vraiment manqué, mais alors la place de parking qu'on cherche depuis 1 heure, ça c'est une autre histoire, quoi. Et on voit bien l'attachement. Est-ce que je peux lâcher? Oui, hein. Oh non. Je peux vous donner cet exemple que je n'ai pas de voiture, donc je risque rien, quoi. Mais je pense quand même, pour être quand même souvent dans une voiture, que c'est quand même un défi assez compliqué. On peut bien se voir, on voit très bien l'attachement là. Donc dans la vie quotidienne, on a beaucoup de situations où ceci est en jeu. Et ce n'est pas des situations moins importantes que sur le coussin. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire d'un maître indien, mais qui est au Tibet, Atisha. Il voulait voir la compréhension, la réalisation de ses disciples. Alors il en fait venir deux, un qui est un méditant, l'autre qui est un philosophe qui connaît bien les textes, etc. Et puis il leur pose des questions sur leur compréhension du dharma. Puis il se rend compte que, bon, ça va, mais enfin. Alors après, il pose la question à son servant qui vient apporter le thé. Et il se rend compte que lui, il a compris le dharma. Donc pour bien montrer là que ça se pratique dans chaque situation, il n'y a pas. Souvent vers la fin d'une retraite, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien, les gens demandent comment est-ce qu'on continue la pratique? Comme si la pratique voulait dire que la pratique assise. La pratique, elle est là à chaque instant. C'est chaque instant la possibilité de découvrir un plus grand espace de liberté. D'ailleurs, je crois qu'on voit bien dans notre entourage, quelquefois, il y a des personnes qui ont cette capacité, dans le fond, à être plus disponibles pour les autres. On sent bien qu'il y a quelque chose de plus détendu, de plus serein. Et puis, on a d'autres qui n'ont aucune capacité. On voit qu'il y a quelque chose de tendu, de fermé, et qui est beaucoup moins serein, beaucoup moins heureux. Donc, une des catégories, une des manières que nous avons de nous fermer à l'ouverture à l'autre, ou à nous mettre dans des conflits avec les autres, c'est de ne pas voir, de ne pas reconnaître la personne qui est en face, comme une personne, mais de la réduire à une catégorie. Et ça c'est terrible. À l'heure actuelle, on voit bien ces jeux de catégories. C'est terrible parce que lorsqu'on a réduit d'autres personnes à une catégorie, on n'a plus affaire à des êtres humains, on n'a plus qu'affaire à des catégories. Et là, finalement, on peut faire n'importe quoi. Des catégories, on peut faire n'importe quoi. On voit bien le langage qui est utilisé ces temps. C'est terrible. On sait que c'est un langage qu'on n'utiliserait plus, et puis on retrouve ce même type de langage. Donc, en réduisant les autres, ce sont des animaux, vous imaginez? C'est terrible, on a entendu ça malheureusement. Enfin, je n'étais pas là pour l'entendre, mais c'est terrible cette manière-là. Alors, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. De réduire les autres à des catégories. Alors, les animaux, c'est un peu extrême, mais il y a quand même des choses un peu plus subtiles, des travers dans lesquels on peut tomber. Enquiquineuse, enquiquineur. Ça passe un peu plus inaperçu. Hein. Des étrangers, des juifs, des musulmans, des flics. Hein, voilà. Wow. Oui, ces catégories. Comme si on n'avait pas affaire à des êtres humains. Donc, on peut tous avoir ces catégories. Là, j'ai donné vraiment les plus répandues, les plus catégoriques. Mais il y en a plein de ces catégories qui fait que on n'a pas en face de nous une personne, on a en face de nous une catégorie. J'ai pris une de vos histoires ce soir, donc pour illustrer ceci, hein. Dans un compte rendu d'un père italien, Renato, qui est à Rio, qui a été envoyé à Rio par son diocèse italien pour s'occuper d'une église et qui finalement, je crois, va quitter l'église qu'on lui a confiée pour s'occuper des gosses des rues. Quoi. Il était dans son église et le premier matin, il a vu qu'il y avait des gosses des rues qui étaient là pour surveiller les voitures des riches qui étaient à l'église. Donc, il n'y avait rien. Puis il s'est dit, mais moi, je ne suis pas pour les gens qui ont les voitures, je suis pour les gosses des rues. Quoi. Donc, il fait un boulot extraordinaire. Et il dit qu'un matin, dans les journaux à Rio, il y avait des annonces telles que faites du bon travail pour votre ville, tuez des gosses des rues. Vous imaginez dans les journaux locaux, donc débarrassez votre ville des gosses des rues, qui doivent sûrement chaparler vu qu'ils n'ont rien du tout. Et alors un matin, une voiture a passé devant l'église où des gosses étaient là, certainement en train de dormir sur le parvis, et ils ont tiré, ils ont tué 10 gosses. Voilà, c'est gosses des rues. Alors je ne sais pas comment en portugais on peut avoir un langage péjoratif pour ceci, il y en a sûrement. Donc voilà, tout d'un coup, on a affaire, c'est plus des enfants avec toute la richesse et la fragilité, non, c'est des gosses des rues qui chaparent. Et un soir, un garçon vient frapper à sa porte et lui demande la protection, lui demande de l'héberger parce que les escadrons de la mort sont après lui. Alors, je ne sais pas s'il a chapardé ou etc. Donc, le père, évidemment, lui ouvre sa porte. Et puis, le lendemain, ils vont chercher un peu de matériel pour les gosses, des ventilateurs, une radio, etc. Et puis, le lendemain matin, eh bien, le jeune vient et puis il dit, il y a eu des voleurs, on a tout volé. Le père, il dit, bon, c'est dommage. Mais il voit que deux jours après, eh ben, ce petit garçon, ben, il a des nouvelles chaussures, il a un nouveau jeans, etc. Il dit, ah, bon. Et puis, évidemment, en parlant avec lui, il se rend compte qu'il a volé. Quoi. C'est lui qui était de mèche avec les voleurs. Il a touché de l'argent, il a pu s'acheter des baskets et puis un jeans. Alors, bon, père réalise ceci. Alors, le petit gosse, ben, il fait son sac pour partir. Et puis, il lui dit, mais tu vas où? Ben, il dit, ben, je m'en vais. Il lui dit, mais tu sais, la vie d'un enfant, ça a beaucoup plus de valeur que quelques ventilateurs et une radio. Quoi. Reste là. Donc, évidemment, ce père, il est au cœur de l'action. Et ensuite, il doit se rendre en Italie pour les funérailles de sa mère. Et ce garçon, enfin petit garçon, ce garçon l'accompagne à l'aéroport. Et quand il est à l'aéroport, lui, il lui donne sa veste de cuir. Et puis, il lui donne aussi une radio, une deux choses. Puis, il espère qu'il va pouvoir ne pas se mettre à voler tout de suite. Parce que ces gosses-là, évidemment, ils vivent dans la rue, donc ils n'ont rien. Quoi. À un moment donné, il prend une petite fille, je crois qu'elle a 6 ans, parce qu'il avait fait une de maison pour s'occuper des enfants. Alors cette petite fille, elle est là, et puis le lendemain, elle dit, non, mais faut que je retourne dans la rue. Il dit, mais pourquoi? Eh bien, faut que j'aille chercher mon fils. Elle a 6 ans quand même, c'est. Même au Brésil, c'est quand même tôt. Il dit, mais enfin, il dit, oui. Ben, ça fait une année que je m'occupe de lui, je l'ai rencontré dans la rue, il a 3 ans, il faut que je m'en occupe. Vous voyez, comment ils doivent se débrouiller tout seuls, quoi. Donc, lui, il fait vraiment un boulot. Il fait vraiment un boulot super. Donc voilà, reconnaître ces gens-là, enfin chaque personne, ces gens-là, c'est pas reconnaître que les personnes qu'on a en face de soi, ce sont des êtres comme nous-mêmes. Vous voyez, on ne veut pas les dissoudre dans la vacuité, quoi. Il n'y a pas de moi, et puis tout d'un coup, allons, toi, t'es vacuité. De toute façon, il n'y a pas de moi. On entend ça des fois dans les gens qui simplifient quand même beaucoup. Il n'y a pas de moi. Donc non, il y a cette spécificité. Donc cette astuce, c'est de ne pas cerner, de solidifier les gens avec une notion de moi ou de toi, tout en reconnaissant leur spécificité. Voilà, c'est un grand art. Martin Buber, dans un de ses petits textes là, sur les récits hassidiques, il parle d'un rabbin qui a dit, il dit, avec chaque personne, quelque chose de nouveau est mis au monde, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, quelque chose d'original et d'unique. Chacun d'entre nous a reçu pour mission de développer et de réaliser sa nature individuelle et unique. Nous ne sommes pas censés répéter ce qu'un autre, aussi grand soit-il, a déjà accompli. Tout d'un coup, c'est respecter chacun dans sa singularité. À la fois, on ne veut pas réduire une personne, la solidifier, mais reconnaître la valeur de sa singularité. Alors évidemment, là, le respect de l'autre dans toute sa singularité. Il y a des singularités qui sont assez difficiles, ça c'est vrai, hein, mais reconnaître quand même ces singularités. Pour aborder un peu le thème responsabilité. Hein. Responsable de ce qu'on ressent, parce que ça c'est quand même quelque chose qu'on rencontre en méditation. Responsable de ce que l'on ressent. Je me souviens quand Joseph Goldstein était venu à Genève, il avait donné un petit enseignement. Il a quand même le talent pour parler de l'essentiel. Et il avait dit, personne ne peut nous faire sentir ce que nous ressentons. Personne ne peut nous faire ressentir ce que nous ressentons. C'est clair. Alors qu'on croit en général que ce soit le ressentiment, la colère, le désir. Ou autre chose, on croit que dans le fond, ça vient de l'autre. Oh, il m'énerve, elle m'énerve. Voilà. Enfin, c'est moi qui m'énerve. Donc, ça veut dire que là, il y a tout un travail pour nous d'exploration. C'est vrai que la méditation s'y prête bien parce qu'on est tranquille et puis il n'y a pas trop de défis. Prendre des décisions rapidement, mais de se rendre compte dans ce qui peut surgir dans notre méditation. Comment on a tendance à ne pas prendre la responsabilité de ce que l'on ressent en pensant que c'est la faute de lui, d'elle, etc. Et ça, évidemment, c'est une immense liberté. Parce que si on prend la responsabilité, à ce moment-là, on a aussi la possibilité de s'en libérer. De se rendre compte qu'on n'a jamais affaire aux autres directement. On n'a affaire qu'à une représentation des autres qui est en nous-mêmes. D'ailleurs, on voit bien quand on compare nos représentations, quelquefois on n'est pas d'accord, mais souvent on n'est pas d'accord. Ah non, il est comme ça. Non, mais je trouve qu'il est comme ça. Ah non, tu le trouves, mais non, voilà. Donc on est heureusement qu'on n'est pas d'accord, d'ailleurs. Si tout le monde avait toujours le même avis, ça serait une catastrophe. On va d'ailleurs voir pourquoi. Vous voyez, la colère, le ressentiment, c'est notre affaire à nous. C'est extraordinaire. Ça dépend de nous. On ne peut pas remettre ça sur l'autre. C'est un peu embêtant parce que ouais, c'est du boulot, mais ouais, c'est comme ça. Quoi. Le ressentiment, c'est intéressant. Ouais, c'est dégueulasse ce qui m'a fait, ce qu'elle m'a fait, etc. Ben voilà, le ressentiment, c'est pas l'autre qui peut générer le ressentiment en moi. Non. L'autre, il m'a peut-être fait des choses qui ne sont pas bien. N'empêche que le ressentiment, c'est moi qui, dans le fond, choisir de le ressentir. L'autre n'a aucun pouvoir. J'ai un exemple pour ceci qui m'avait frappé. Voilà, quand Clinton est allé en Afrique du Sud et reçu par Mandela, Mandela a voulu lui montrer la maison où il avait été incarcéré pendant bien des années. Et Mandela a dit, quand je suis sorti de la maison, j'avais beaucoup de haine pour les Blancs. Il a dit, et là j'ai su qu'il me tenait encore. Et j'ai laissé tomber. Il s'est rendu compte que tant qu'il aurait du ressentiment, eh bien c'est eux qui avaient le pouvoir sur lui. Et il a laissé tomber. Il a pris la responsabilité pour sa haine et il a voulu s'en libérer. Autrement, il donne un pouvoir aux autres. Donc dans les ressentiments, toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir, c'est toujours un pouvoir aux autres qu'on donne. En imagination, évidemment. Donc la responsabilité de ce qu'on ressent. Donc à nouveau, ça, on le rencontre très souvent dans la pratique, le fait qu'on n'assume pas cette responsabilité. Avec ces représentations des autres qui semblent être responsables. Donc là, il y a un lâcher prise au ressentiment, au désir de nuire. Mais ce n'est pas si simple, cette responsabilité de ce qu'on ressent. On a un exemple assez révoltant dans la tradition bouddhique du manque de responsabilité. C'est l'aspect misogyne des textes de moralité. C'est une catastrophe. Les moines accusant les femmes du désir qu'ils ont. Alors, voilà, il y a une sorte de négation des femmes dans la plupart des textes. Elles sont responsables. C'est quand même assez choquant quand on pense qu'il y a des réflexions tellement subtiles et profondes, et là, c'est vraiment. C'est vraiment d'une naïveté et d'une mauvaise foi immense. Bon, Vimalakirti, il est un peu à côté. Moi, je suis très content de l'affirmer parce que lui, il y a un moment donné, au contraire, il met Sariputra en boîte où il le transforme en une femme et puis Sariputra ne sait pas bien quoi faire. Donc, Vimalakirti le taquine en disant, mais à quoi tu t'attaches, quoi? Il n'y a pas d'essence féminine ou masculine. Donc, arrête de faire ces différences. Donc, voilà. On a un peu de la chance d'être en bonne compagnie avec Vimalakirti. Donc, le fait que le ressentiment et ces choses-là, finalement, c'est un pouvoir qu'on donne à l'autre, qu'on projette sur l'autre de nous nuire. Gandhi l'a bien senti, hein, avec un courage immense. Et Luther King aussi, c'est impressionnant comment quand il parle avec un orateur extraordinaire, Martin Luther King, à la manière des prêcheurs. Des États-Unis du Sud. Quoi. Et quand il voit bien que la haine est plus destructrice que les coups, la haine fait plus de mal que les coups qu'on reçoit. Il arrive, hein, pendant un certain temps à mobiliser tous les gens, à les maintenir en se disant mais ça vous fait plus de mal, quoi. Donc là, on est dans le concret, dans le rapport humain. Pas toujours aussi dramatique que ce que j'ai évoqué, mais c'est tellement bien présent dans notre vie quotidienne. Il y a aussi une responsabilité peut-être plus fondamentale, c'est la responsabilité de sa vie. Je vous donne des catégories comme ça, elles existent nulle part, c'est moi qui les invente, il ne faut pas croire qu'il y a des sources, etc. J'essaie de voir un petit peu de classer les choses, mais donc voilà, il me semble que la responsabilité de sa vie, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre beaucoup en méditation. Dans une histoire que raconte Martin Buber, un rabbin est emprisonné dans la tour de Saint-Pétersbourg et puis le chef des gardes vient le trouver le soir. Il sait que ce rabbin est connu pour être extrêmement sage, donc il veut lui poser une question embarrassante. Il lui dit, mais comment ça se fait si Dieu sait tout, qu'il demande à Adam, où te caches-tu? Il dit, ça joue pas, Dieu il connaît tout, pourquoi il ne sait pas où est Adam? Bon. Alors évidemment le rabbin ne va pas répondre à cette question, il lui répond à lui, il dit, mais enfin toi tu as 46 ans maintenant, où est-ce que tu es dans ta vie? Il dit, cette question, ce n'est pas Adam qu'on la pose, elle est posée à chaque personne, à chaque instant. Donc toi, où est-ce que tu es dans ta vie? Elle dit, Adam se cache pour ne pas avoir à rendre compte de lui-même. Il se cache pour ne pas avoir à rendre compte de lui-même et pour ne pas assumer la responsabilité de sa vie. Alors, comment il se cache? Alors nous, on sait très bien comment faire. Il suffit de s'affairer par mille choses, etc. C'est assez facile de se cacher. On passe notre temps et puis on nous donne encore de plus en plus d'outils pour se cacher. Donc, pas assumer la responsabilité de sa vie. Chaque personne reconstruit son existence comme un réseau de cachettes afin d'échapper à la responsabilité de la vie vécue. Donc dans la méditation, on se rend bien compte, cette vie, hein, assumer la responsabilité de sa vie, c'est dans le fond ce fait d'être totalement là, sans vouloir saisir. Je ferai encore une remarque là-dessus. Donc on se rend bien compte que finalement la difficulté qu'on a à être complètement là. Maintenant, cette responsabilité de sa vie, ce n'est pas juste un choix. On a décidé il y a bien longtemps, ouais, moi je ne prends pas la responsabilité, je m'absente. C'est évidemment des mécanismes beaucoup moins conscients, assez anciens, mais on les rencontre quand même, ces manières d'éviter, d'assumer sa vie, c'est-à-dire d'être totalement là. Quelquefois, quand je dis des raisons, on a une sorte de mal-être qui fait que c'est pas si évident d'être simplement là. Mais n'empêche que pour être simplement là, ça passera par la rencontre de ce mal-être, puisque le mal-être, il est là. On ne peut pas l'éviter. Mais ce mal-être, ce n'est pas ce qui nous définit. Pour la rencontrer dans la méditation, on se rendre compte que finalement, c'est que du mal-être, mais ce n'est pas ce que je suis. Voilà. Un peu le livre de Martin Buber aujourd'hui, parce qu'il raconte plein de petites histoires qui sont tellement parlantes. Alors, il y a un rabbin qui s'appelle Sosia. Alors, il est sur le point de mourir, il dit, voilà, dans le monde à venir, on ne me demandera pas pourquoi n'étais-tu pas Moïse? C'est pas ce qu'on va me poser quand il va aller vers le chef là-bas. On ne va pas lui dire pourquoi n'étais-tu pas Moïse? On va me demander plutôt pourquoi n'étais-tu pas Sosia? Donc, ce qui nous est demandé, c'est d'être nous-mêmes et pas d'être quelqu'un d'autre parfait, etc. Je ne sais pas, le Bouddha ou. Non, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas moi-même? Pourquoi que je n'ai pas assumé, évidemment, cette position dans laquelle je suis, cette particularité dans laquelle je suis? Donc ça, évidemment, on le rencontre bien dans la méditation, mais aussi dans la vie quotidienne, cette tendance à s'affairer constamment pour ne pas être là. Mais la sagesse aussi va dans ce sens-là, puisque s'il n'y a pas de saisie du moi, ou si le moi est moins là, il y a beaucoup plus de disponibilité naturellement pour les autres. Donc on voit bien comment les deux se cèdent. Maintenant, quelquefois, on pose la question, mais et qu'en est-il de l'écologie dans le bouddhisme? Si on veut à tout prix trouver de l'écologie dans le bouddhisme, Pourquoi le bouddhisme devrait avoir tout d'ailleurs? Il faut bien laisser des choses un peu aux autres. Mais voilà. Bon, on va essayer de réfléchir un petit peu là-dessus. Jonas, un grand philosophe allemand, disait que dans le fond, la frontière entre État et nature a été abolie. C'est-à-dire que si on pense au temps du Bouddha, par exemple, ben, il y avait des petites villes. Même les grandes villes indiennes à l'heure actuelle, c'était des petites villes, puis entre, il y avait la jungle. Donc, ce qui était plutôt menacé, c'était les petites villes, par les inondations, par les pluies, etc. Et puis, les bêtes sauvages, et ce n'était pas tellement la nature qui était menacée. Donc, on était dans un rapport, si vous voulez, de force complètement différente. La petite enclave, c'était les villes où vivaient les humains, ou les villages. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est l'enclave où vivait l'être humain. Ils ont colonisé complètement toute la planète. Et finalement, les enclaves, c'est où il y a un petit peu de nature. Donc, on a changé complètement le rapport. Donc, évidemment, à ce moment-là, bah, il faut une réflexion un peu différente. On ne peut pas réfléchir sur la planète dans laquelle on vit de la même manière qu'il y a 2500 ans, où il n'y a pas de problème par rapport à la nature. Donc, ces choix qu'on peut faire, alors, choix ici écologique, je vais revenir dessus, mais aussi le choix de donner aux mendiants, d'être à l'écoute de quelqu'un d'autre, etc. Et ça détermine le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel je vis, est-ce que c'est un monde où on écoute les mendiants, on les regarde, ou est-ce que c'est un monde où on ne les voit pas? Chaque choix va déterminer le monde dans lequel je vis. Donc, c'est une immense responsabilité. C'est pas le monde il est comme ceci, puis alors moi, mes actions n'ont pas vraiment d'importance. Non, ça détermine le monde dans lequel je veux vivre. C'est un choix. Est-ce que c'est un monde de tolérance, où on peut accepter les différences, accepter le malaise, etc. Ou bien non, c'est un monde qui doit correspondre à quelque chose de très rigide, figé, basé sur l'intolérance. Donc, quand on a dit au début pourquoi, dans le fond, pourquoi avoir un comportement plutôt moral, éthique, ben, c'est parce que ça détermine le monde dans lequel je vis. À nouveau, à l'heure actuelle, on a beaucoup de difficultés, on se rend compte comment le monde est déterminé par l'intolérance, par ces difficultés. Et là, il s'agit aussi pour nous de nous rendre compte que déjà dans nos choix, dans chaque choix, on est déjà là en train de créer un certain monde. Alors je reviens un petit peu entre bouddhisme et écologie, voilà, comme moyen de réflexion, non pas quelque chose de, à nouveau, de, une vérité ou autre chose, quoi. Je voulais citer une phrase du Zarathoustra de Nietzsche tout d'abord. Voilà ce qu'il dit dans son Zarathoustra, c'est Zarathoustra qui le dit. Hein. Je vous conjure, mes frères, à la terre restez fidèles. Et n'ayez foi en ceux qui vous parlent, donc n'ayez pas foi en ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Qu'il dit, c'est très simple. Il dit, ne croyez pas les gens qui vous disent il y a un monde meilleur ailleurs. Restez fidèles à la terre, parce que ça, c'est une trahison de la terre sur laquelle nous vivons. Tous les gens qui vous disent que ça sera mieux après, les paradis, etc., ils disent que c'est une trahison de la terre. À ce moment-là, elle n'est pas respectée. Dans le monde où on vit, etc., on voudrait autre chose. Et cette autre chose, c'est là que c'est une trahison de la terre, un refus. Et c'est là déjà que l'exploitation de la terre commence. Parce que la terre n'a aucune importance. Et cette manière de vouloir voir derrière le monde éphémère, le monde de l'impermanence, qui est le monde que nous explorons, qui est le monde dans lequel nous vivons, cette manière de vouloir voir derrière quelque chose d'immuable, de stable, de pur, que toutes les traditions, les philosophes, Platon, Aristote, Plotin, tout ça, philosophes indiens aussi, les religions, on voit un dieu qui est immuable, et puis le Brahman, et puis Shiva, etc. Là, on a derrière ces apparences n'ont pas beaucoup de valeur. Le monde changeant, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui est absolu et autre. Donc le monde dans lequel nous vivons, qui change, il n'a pas de valeur. Donc on place ceci comme vision, dans le fond. Ce que nous vivons, ça n'a aucune valeur. La valeur, il faut aller voir derrière. Alors là, le bouddhisme est complètement en porte-à-faux avec ça, parce que lui, il voit aucune vérité immuable derrière le monde qui change. Au contraire, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ce monde éphémère qui change. Il l'assume complètement. Non seulement il l'assume, mais il déclare que c'est dans le fait de découvrir, d'assumer ce côté éphémère du monde que se trouve notre liberté. Pour lui, c'est dans tous les réflexions sur la philosophie bouddhique, mais pour le bouddhisme, le fait de s'attacher à quelque chose d'immuable, c'est ça qui est un emprisonnement. C'est ça qui fait qu'on rejette aussi le monde dans lequel on vit. Donc pour la tradition bouddhique, au contraire, on peut danser avec ce monde éphémère et c'est là que nous vivons, ce monde sur Terre, c'est le respect, fidélité à la Terre, mais c'est aussi ce monde où se trouve notre liberté. Elle n'est pas ailleurs. Vous voyez, là, on revient à quelque chose qui est pas de la négation, mais au contraire, le fait d'assumer le monde dans lequel nous vivons. Dans un joli petit texte de Martin Buber, on est dans d'autres choses, mais il parle justement de la contemplation d'un arbre, et il parle de la manière dont on peut le voir. Alors il dit, ça, cela, pour lui, c'est des choses. Il dit, on peut très bien voir un arbre comme, voilà, comme un photographe, on pourrait dire, voilà, la lumière, etc., ou comme un botaniste, voilà, ce côté, voilà, comment ça va se développer, ou un bûcheron, voilà, pourrait donner du bois. Alors, il dit, on peut le voir comme ça, mais il se peut aussi que, s'attachant à rien de tout ceci, on soit juste devant l'arbre et qu'on rencontre l'arbre lui-même, qu'on se rencontre avec l'arbre lui-même. Et là, tous ces concepts, toutes ces histoires, ils sont éliminés. C'est juste cette présence. On pourrait dire ce face à face, mais bon, je ne sais pas exactement. Voilà, je vais. Alors voilà ce qu'il dit pour finir. Il dit, il cesse alors d'être un cela, c'est-à-dire une chose. L'arbre n'est plus une chose. La puissance de ce qu'il a d'unique m'a saisi. Ce n'est pas l'âme de l'arbre qui se présente à moi, c'est l'arbre lui-même. Donc il est dans ce rapport à la nature, si vous voulez, où tout d'un coup, il y a on pourrait dire cette connivence, et non plus cette manière de voir qu'est-ce qu'on pourrait tirer, qu'est-ce qu'on peut tirer du bois, qu'est-ce qu'on peut tirer des océans, etc. Alors, je voulais poser une petite question, finalement. Mais pourquoi est-ce que être libre, c'est souhaitable? Pourquoi? Enfin, être libre, libre, etc. La liberté. Bon, alors, liberté politique, économique, tout ça, bon, on comprend évidemment. Mais là, on parle d'autre chose. Donc, être libre, déjà, ça veut dire libre des trois soifs dont a parlé Patricia, des trois feux. Donc, satisfaction sensuelle, soif d'existence, peur de la mort, libre, libre de ceci, mais pourquoi quand même? Je me souviens dans une biographie de Jung, qu'avait écrit une de ses disciples, Barbara Anna, qui disait que. J'ai vu un entretien en fait, télévisé, où elle disait que Jung poussait ses patients à rencontrer les zones d'ombre. Il pouvait être vraiment très persistant dans cette manière de pousser. Alors le journaliste lui demande, mais finalement, quand vous touchez ces zones d'ombre, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle disait, on est tellement plus vaste. Tout d'un coup, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. On s'est plus fragmenté par rapport à ces zones-là. Ben, on pourrait dire peut-être que d'une manière encore plus grande, que lorsque il y a ce fait d'être libre, à ce moment-là, on a une existence sans limite, parce qu'il n'y a plus ces fragmentations. Donc elle n'est pas seulement vaste comme en touchant l'ombre de Jung, elle est sans limite. Sans être saisie non plus comme quelque chose, ça serait la limiter encore. Donc d'une certaine manière, c'est l'accomplissement de la vie, que la vie finalement trouve son accomplissement, sa plus grande dimension, parce qu'on l'a libérée de tout ce qui pouvait la limiter. Donc dans ce sens-là, pourquoi la liberté? Parce que c'est l'accomplissement le plus profond de la vie. Alors ne demandez-moi pas pourquoi on doit avoir le plus grand accomplissement de la vie, parce que là, je ne sais plus, mais bon, on est déjà arrivé jusque-là. Voilà, donc quelques remarques pour essayer aussi de montrer que on ne peut pas oublier l'aspect du rapport à autrui, qu'il est important, et c'est aussi une zone d'exploration pour être plus libre qui est très importante. Il n'y a pas juste l'assise tranquille, elle est riche, on est là pour ça, c'est extraordinaire, mais il y a aussi tous ces autres aspects que vous rencontrez là, dans les transitions, au réfectoire, etc. Il y a plein de zones où vous pouvez explorer ça. Heureusement d'ailleurs.